J'invite maintenant notre premier intervenant. En l'occurrence, il s'agit de Benoît Hérault, maître de conférence à l'Université Lyon 2, chercheur au centre Max Weber, chercheur affilié au CEM-IMM. À prendre place au pupitre pour 30 minutes précisément. Donc, hein, vous avez compris, à 5 minutes, je joue petit carton jaune et à la fin, rouge, si vous dépassez, pour nous parler un peu de l'évolution du droit.
Bonjour. Merci de votre invitation. Merci à Gilles Moulec de m'avoir contacté. Suite, je crois, à la lecture d'un article qu'on a écrit avec Livia Velpri dans un numéro de la revue de droit sanitaire et social qu'on avait coordonné autour des questions de la liberté d'aller et venir, et numéro qui faisait suite à une journée d'études internationales qu'on avait organisé sur ce thème des libertés d'aller et venir avec le collectif Contraste. Donc je dis deux mots du collectif Contraste. C'est un collectif de recherche en sciences sociales, plutôt interdisciplinaire, qu'on a fondé avec Livia Velpri il y a maintenant 4 ans et qui précisément cherche à explorer les évolutions, les recompositions dans le domaine de la santé mentale. Je reviendrai sur la manière dont on définit un petit peu les questions de santé mentale. Donc on est un collectif interdisciplinaire avec des juristes et avec des philosophes. On essaye au maximum, et j'y reviendrai dans la conclusion aussi, d'organiser un petit peu des événements pour débattre bien sûr avec les acteurs, avec les différents acteurs concernés par les questions de santé mentale. Et pour autant, bien sûr, même si la question des droits est au centre de nos préoccupations, je suis sociologue, donc je ne fais pas du tout une intervention de juriste, mais bien une mise en perspective sociologique des recompositions, des régulations et de la place peut-être nouvelle, on va le voir, c'est un peu notre hypothèse, en tout cas de la mise en avant de la place du droit, de la question des droits dans les régulations de la santé mentale. Donc peut-être... Oui. Peut-être redonner effectivement les éléments de contexte à l'origine de notre questionnement. Bien sûr, la mise en avant d'abord de la norme d'autonomie dans toutes les formes de relations de soins, dans toutes les formes de relations d'accompagnement, que ce soit dans le domaine de la santé, du social, du médico-social. Cette norme d'autonomie prend bien sûr une importance toute particulière depuis au moins une quinzaine d'années, depuis au moins d'un point de vue législatif le cycle des lois de 2002. Et la mise en avant de cette norme, bien sûr, pose des problèmes spécifiques dans le contexte de la santé mentale, problèmes spécifiques qui sont en partie traduits par, là encore, une activité législative particulièrement forte. Vous le savez, depuis 5 ans, il y a au moins 3 lois qui concernent directement le champ de la psychiatrie, plus des lois qui concernent le champ de la santé mentale entendues dans un sens large. Je pense notamment à la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a des implications directes sur les questions de restriction de liberté d'aller et venir dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Donc le contexte un petit peu de notre questionnement, effectivement, c'est la tension entre cette mise en avant de la norme d'autonomie et derrière la norme d'autonomie, c'est une transformation de la place des personnes qui sont accompagnées ou qui sont soignées, qui font l'objet de soins, une mise en avant des personnes qui font l'objet du soin, et comment cette norme-là est spécifiée dans un contexte de santé mentale qu'on caractérise, non seulement bien sûr dans nos réflexions du collectif Contraste, mais d'un point de vue un peu plus général, un peu plus à partir de deux caractéristiques. D'abord, bien sûr, les difficultés, les incertitudes qui portent sur la capacité à consentir des personnes sur le soin ou l'accompagnement dont elles font l'objet. Donc, incertitude qui vient en partie remettre en cause le principe structurant de recueil du consentement des personnes dans toute relation d'accompagnement ou dans toute relation de soins. Et puis, deuxième caractéristique historiquement très forte, bien sûr, les spécificités juridiques dont font l'objet le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale, à savoir le fait qu'il y a un certain nombre de pratiques contraignantes qui sont ordinairement prohibées, interdites, qui dans le cadre de la psychiatrie ou de la santé mentale peuvent faire l'objet d'autorisations légales spécifiques, donc pratiques contraignantes qui peuvent exister avec ou en dehors d'un cadre légal spécifique qui les autorise. Donc ces deux difficultés particulières sont évidemment particulièrement révélatrices des difficultés à mettre en avant la norme d'autonomie et la place du patient, de l'usager, de la personne la plus directement concernée. Et c'est celle-ci qui nous intéresse évidemment au premier plan. Et on fait l'hypothèse un petit peu générale que les régulations des questions relatives au consentement et des questions relatives à la restriction de la liberté d'aller et venir font l'objet de ce qu'on a appelé, peut-être de manière un petit peu fort, mais un tournant juridique dans la relation de soins dans les régulations de la relation de soins et de la relation d'accompagnement. Tournant juridique qui s'inscrit évidemment dans une histoire longue de l'équilibre entre les régulations médicales, les régulations cliniques d'un côté et les régulations juridiques de l'autre. On sait que selon les contextes historiques, il y a une tendance, il y a des équilibres qui bougent entre la place du médical et la place du juridique. Et donc, je vais essayer de reprendre un peu les éléments principaux, de mettre en perspective les éléments principaux qui permettent de faire l'hypothèse de ce tournant juridique dans les régulations des relations de soins et de santé mentale. Donc, ce tournant juridique, bien sûr, dire qu'il s'inscrit dans des transformations sociales plus larges, qui, dans le contexte anglo-saxon, et j'y reviendrai un tout petit peu, ont été qualifiés de « rights revolution ». On va voir comment, effectivement, depuis plusieurs décennies, cette question des droits est devenue centrale dans de nombreux domaines de la vie sociale et comment elle vient s'imposer, s'infiltrer spécifiquement dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc, ce tournant juridique, je vais essayer de le caractériser à travers quatre processus socio-juridiques qu'on peut décrire sur ces dernières décennies. Je les évoque rapidement avant de rentrer dans le détail. Bien sûr, d'abord, un processus de démocratisation de la relation de soins qui se décline aussi bien dans la relation directe malade-patient que dans le contexte administratif du soin et de cette relation, démocratisation de la relation de soins, démocratisation du rapport administratif de soins. Deuxième processus sur lequel je donnerai quelques éléments, celui de la fondamentalisation des droits qui encadrent la relation de soins. Je reviendrai là encore sur ce terme de fondamentalisation qui a évidemment plusieurs significations, mais je prendrai surtout des exemples relatifs à la fois à une forme de constitutionnalisation, de référence au droit constitutionnel dans le domaine de la santé mentale, mais aussi et peut-être surtout référence aux textes supranationaux qui viennent encadrer les régulations de la santé mentale. Et puis, j'essaierai de décrire un petit peu les implications directes en termes de judiciarisation, donc à la fois de déplacement de la place du juge dans le contrôle et dans les régulations du soin, déplacement de la place du juge, mais aussi déplacement augmentation du recours au juge. Il y a un déplacement institutionnel, organisationnel, mais aussi une manière de recourir, une manière de solliciter le juge qui change, qu'on qualifie de judiciarisation. Et puis le dernier élément que j'évoquerai, c'est celui de la juridicisation de la régulation des régulations du soin en santé mentale, qui renvoie plus largement à un phénomène de mise en avant des droits dans les relations sociales, une formalisation plus grande des relations sociales qui passe par la référence au juridique, et on verra comment cette juridicisation s'applique dans la relation de soins. Alors, démocratisation au pluriel, processus de démocratisation, parce qu'il me semblait évidemment important de décrire l'imbrication entre deux processus parallèles, celui, bien sûr, de la relation médecin-malade et celui de la transformation du cadre administratif. Donc, d'abord, transformation de la relation médecin-malade, on le sait, le modèle traditionnel plutôt paternaliste qui régulait la relation médecin-malade s'est progressivement transformé, pour arriver à une symétrie plus grande dans le rapport entre le médecin et le patient, symétrisation qui s'est faite par la mise en avant du principe du consentement dans la relation de soins. Donc, principe du consentement qui existe depuis longtemps, bien sûr, dans le cadre de la relation contractuelle, hein, qui régule la relation de soins. Hein. Il y a une jurisprudence très ancienne qui rappelle la nécessité du recueil du consentement. Mais principe du consentement qui a été remis en avant très fortement à partir à la fois de faits historiques et puis de scandales sanitaires ou de scandales dans le monde du handicap où on se permettait tout un certain nombre de, notamment de recherches mais aussi de soins envers des personnes malades sans demander leur consentement. Donc il y a eu une interpellation éthique très forte qui a eu un rebond bien sûr dans le domaine juridique pour rappeler les exigences du recueil du consentement dans la relation de soins. Donc je ne refais pas l'historique, bien sûr, du développement de l'institutionnalisation d'une réflexion éthique sur ces questions. Rappeler d'abord que les premières chartes viennent suite au code de Nuremberg, puis dans les évolutions législatives américaines, des propositions d'institutionnalisation d'éthique dans le monde hospitalier suite à un certain nombre de scandales dans la dynamique de recherche. Donc mise en avant de l'éthique, du consentement, qui est l'une, bien sûr, des genèses des différentes lois dans le contexte français à partir du début des années 2000 qui rappellent que l'usager, le patient, est au centre de la relation et que le recueil de son consentement est tout à fait obligatoire. Hein. Donc, institutionnalisation de l'éthique et mise en avant du consentement des personnes qui s'inscrit plus largement dans une transformation du cadre administratif de la relation de soins. Hein. On a souvent en tête cette genèse, on va dire, éthique du consentement, mais peut-être qu'en termes de gouvernance, c'est important de rappeler que la démocratie en santé, la démocratie sanitaire, comme on l'appelle depuis une quinzaine d'années, s'inscrit dans une transformation plus profonde du rapport de l'administration avec ses administrés, dans une forme de mise en avant d'une citoyenneté administrative où on n'est plus dans un rapport entre une administration active et un usager, un administré passif. On est de plus en plus dans une forme d'activation de l'usager des services publics. Donc, transformation qui se fait au moins depuis les années 70 d'un point de vue législatif dans un certain nombre de textes législatifs qui transforment la relation de service public et qui transforment la relation administrative, qui s'est déclinée aussi, qui a eu une influence dans le domaine du sanitaire et dans le domaine du médico-social à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000. Transformation du cadre administratif qui se traduit par la mise en avant d'un certain nombre de droits, et notamment, bien sûr, le droit à l'information et le droit à l'accès au dossier médical. Hein. On sait que c'est quelque chose qui peut encore faire l'objet de difficultés, mais qui remonte historiquement à des décisions législatives de la fin des années 70 qui s'appliquent au fait que l'administré a le droit de savoir comment on l'administre, et bien sûr, la relation de soins fait partie d'une relation administrative. Donc, droit à l'information, droit également à un service de qualité, et j'insiste bien sûr là-dessus, parce qu'on sait combien toute la dimension de mise en avant de la qualité s'est traduite institutionnellement par la création de nouveaux types de contrôles, de nouveaux types de services au sein des établissements et qui implique aussi de la part qui donne des nouveaux droits de regard, des nouveaux droits de contrôle en partie aux usagers et aux patients qui se traduisent par les instances représentatives, CRUC-PC, aujourd'hui CDU, qui donnent, si possible, un pouvoir un petit peu plus grand aux patients dans l'organisation des services, du système de soins, des hôpitaux et des services. Dire peut-être que, bien sûr, Ces évolutions-là posent des difficultés spécifiques dans le domaine de la santé mentale, puisqu'elles s'appuient sur, finalement, une confiance assez grande faite dans les capacités de l'usager, du patient, des personnes concernées à participer collectivement à la gouvernance des établissements. Or, précisément, cette capacité est en partie ce qui va être remis en cause dans le cadre d'une qualification psychiatrique, d'une qualification pathologique des symptômes que des patients peuvent avoir. Donc, difficultés qui, on le sait, font l'objet d'un encadrement juridique historiquement spécifique dans le domaine de la psychiatrie. Encadrement juridique spécifique qui avait été très fortement remis en cause à la fin des années 60, au début des années 70, où on a fait rentrer l'organisation administrative de la psychiatrie au sein de l'organisation hospitalière générale, hein, ce qui s'est traduit de manière concrète sur une égalisation du statut des médecins, des transformations, d'un rapprochement, bien sûr, de l'organisation administrative de la psychiatrie, mais qui est en partie, mis en difficulté par le fait que la manière de donner une place plus grande aux usagers et aux patients est fait l'objet de soupçons, fait l'objet d'une remise en cause beaucoup plus importante dans le contexte de la psychiatrie. Deuxième processus que je souhaite évoquer, qui est dans une certaine mesure encore un peu plus transversal que celui de la dynamique des démocratisations, c'est celui d'une référence de plus en plus importante aux droits fondamentaux et donc les processus de fondamentalisation des droits. Rappelez d'abord, bien sûr, là encore, que ce processus est ancien, hein, qu'il se caractérise d'abord par un certain nombre de textes, notamment aux Nations Unies de portée générale, hein, qui insistent notamment sur le fait que toute restriction de liberté d'aller et venir doit se faire dans des conditions juridiques, dans un contexte légal tout à fait spécifié. Ces textes généraux vont progressivement s'appliquer au domaine de la santé mentale. Alors, d'abord, très concrètement, à travers la Convention européenne des droits de l'homme, qui, dès le début des années 50, mentionne que les détentions concernant les aliénés doivent faire l'objet de procédures juridiques spécifiques, hein, et on va le voir à partir des années 70 et des années 80, on va de plus en plus solliciter la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer des formes de détention en psychiatrie qui ne feraient pas l'objet, qui n'apporteraient pas les garanties nécessaires pour protéger les droits des patients. Donc, spécification dès la Convention européenne des droits de l'homme, spécification également qui va se traduire progressivement par des textes qui concerne en propre le domaine de la santé mentale. Donc, premier texte international au niveau de l'Organisation des Nations Unies, un texte en 1991 qui donne les principes, j'ai plus exactement le titre exact du texte, mais qui donne les principes qui encadrent le soin en santé mentale, le soin en psychiatrie, et qui met en avant le terme anglo-saxon de « least restrictive alternative », que le traitement psychiatrique doit être celui qui présente on doit choisir celui qui apporte le moins de contraintes, le moins de restrictions, hein, donc principe de droit international qui s'appuie sur un certain nombre de jurisprudences anglo-saxonnes, mais qui est mis en avant à partir du début des années 90 à travers ce texte des Nations Unies et qui va être évidemment très fortement repris au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et des différents textes publiés par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, à la suite notamment de ces principes de 1991, mais plus généralement à la suite d'un mouvement plus large que celui de la santé mentale, mais dans lequel bien sûr, le domaine de la santé mentale est complètement embarqué. Il va y avoir l'élaboration, puis la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, qui, d'abord, fait l'objet d'un processus assez inédit, dans le sens où c'est une convention qui n'est pas simplement, qui n'a pas simplement été négociée à travers les différents États parties, mais dans lesquels le processus de négociation a donné une grande place à la société civile, et notamment aux associations du domaine du handicap, mais aussi aux associations de patients, d'usagers, d'anciens survivants de la psychiatrie. Et on peut le dire, cette ouverture à la société civile qui pouvait concerner aussi bien les professionnels de la psychiatrie, du travail social ou les usagers, a eu des effets très importants dans l'élaboration de cette convention, puisque celle-ci a donné lieu à des articles tout à fait emblématiques qui peuvent conduire à des interprétations remettant en cause toute forme d'encadrement juridique autorisant des décisions substitutives, autorisant des décisions de soins contraints ou des décisions de mise en protection type tutelle ou curatelle. Hein, donc, bien sûr, deux articles très importants de cette convention. L'article 12 qui concerne le droit à l'égale capacité, l'égale personnalité juridique pour les personnes en situation de handicap. Et puis l'article 14 qui concerne la sécurité et la protection des libertés des personnes. Ces deux articles conduisent, si ce n'est à une interdiction explicite des mesures contraignantes, du moins à des interprétations qui autorisent ce type d'interdiction. Hein, et peut-être dire également que derrière ces articles et derrière la Convention, c'est bien sûr le principe de non-discrimination qui est à l'œuvre. J'y reviendrai juste derrière. Et peut-être évoquer que le point important de l'article 14 sur la question des hospitalisations sans consentement, c'est de dire que les restrictions de liberté ne doivent pas s'appuyer sur des motifs médicaux, ne doivent pas s'appuyer sur un état de santé ou sur un état de handicap de la personne. Une justification thérapeutique n'est pas suffisante, contrairement encore à bien sûr ce que permet la loi française d'aujourd'hui, mais n'est pas suffisante pour autoriser des restrictions de liberté, notamment sur la liberté d'aller et venir. Donc j'y reviendrai, convention qui fait l'objet de controverses relativement importantes, mais qui marque une forme de changement de paradigme dans l'horizon des droits qui protègent les personnes en situation de handicap et les personnes faisant l'objet de soins en santé mentale ou en psychiatrie. Alors, sur cette question des fondamentalisations, dire deux mots, là encore, d'un autre niveau, bien sûr, de l'effet de cette fondamentalisation. Un petit rappel, là encore, historique, l'importance du moment des civil rights dans la dynamique sociale qui amène à la révolution des droits. Hein, c'est la sollicitation par la Cour suprême américaine, disons, les décisions de la Cour suprême américaine sur les questions d'abord raciales, mais ensuite sur les questions des prisonniers, sur les questions des internements psychiatriques dans les années 60, décisions qui disent que toute hospitalisation ou toute discrimination, toute décision ne doit pas être discriminante et doit respecter le due process of law, l'état de droit. Ces décisions ont une influence très grande parce qu'elles conduisent à un mouvement social de mobilisation des droits par différents types de minorités qui va avoir des effets en termes de judiciarisation. J'y reviendrai, mais mobilisation sociale forte qui implique que non seulement, les acteurs régulateurs du domaine de la psychiatrie ne vont plus être principalement les soignants, les médecins ou infirmiers, mais d'autres acteurs, les juristes et évidemment les patients. Dans le contexte français, il faut attendre 40 ans après, mais ce niveau constitutionnel, bien sûr, on le sait, a un effet très important, puisque les questions prioritaires de constitutionnalité ont eu un rôle majeur, évidemment, dans les transformations législatives et la loi du 5 juillet 2011 et les suites qu'on connaît. mouvement de judiciarisation. Je l'ai évoqué, j'évoque évidemment les transformations de la place du juge et du recours au juge. Donc dire rapidement que ce mouvement-là, il est complexe, que certes aujourd'hui, depuis le début, disons depuis la loi de 2011, on pense surtout au déplacement de la place du juge, mais le juge existait déjà, était déjà présent, on le sollicitait assez peu. Hein. Mais déplacement de la place du juge, qui rappelle qu'il y a plusieurs types de juges qui sont concernés par la régulation de la santé mentale, et en tout premier lieu, le juge des tutelles, qui fait depuis la fin des années 60, un rôle tout à fait considérable, puisqu'on sait qu'il y a une augmentation très importante du placement en mesure de protection, qui a là encore des implications sur les capacités des personnes à exercer leurs droits. Donc, judiciarisation qui a des effets ambivalents, hein, défense des droits des personnes, mais aussi défense de mesures de protection qui réduisent l'exercice, le droit à l'exercice des droits des personnes. Donc augmentation du recours aux mesures de protection. On le sait, décision du législateur de faire un contrôle a posteriori systématique qui est assez singulier dans le contexte international. Il est assez rare que ce contrôle judiciaire soit systématique et qui interroge sur la place du patient et la place de la personne dans la manière d'être activée ou passivée par rapport au recours au juge. Je vais relativement vite là-dessus, mais en tout cas, dire que cette judiciarisation également a des limites. Hein, une perspective comparative est là encore intéressante. On le sait, les refus de soins et les différentes dimensions du soin concret peuvent faire l'objet de recours judiciaires dans le contexte anglo-saxon. En France, les juges ont dit « Ah non, le traitement médical, ça ne nous regarde pas hein, ». Donc on a encore des sphères du soin qui ne sont pas investies par le processus de judiciarisation et qui peuvent aussi interroger. Hein. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Et puis, dernier élément du processus social, pour ne pas déborder mon temps, mais celui de la juridicisation et donc cette formalisation plus grande des relations sociales et donc d'abord de la relation de soins, formalisation plus grande, on s'appuie sur une codification, une écriture juridique hein, plus importante des textes qui encadrent les relations de soins, écriture juridique qui est aussi foisonnante à travers la multiplication des règles de droit souple, mais aussi multiplication des instances de contrôle qui produisent de la norme un petit peu souple hein, et qui essayent de là encore donner des repères en termes de contenu de la relation de soins. Hein. Et puis, juridicisation qui implique non seulement des écritures en amont par des formes de droit souple direct, mais qui s'appuie aussi sur une exigence de compte-rendu systématique des soins opérés et de la manière dont les droits sont respectés ou non dans les soins. Donc, compte-rendu qui passe par une forme de, là encore, d'écriture et d'écriture au pluriel, très importante de ce qui est mené dans les services, dans les hôpitaux, dans les services ambulatoires. Il faut pouvoir rendre compte, il faut pouvoir tracer. Donc on est là encore dans une forme de juridicisation très importante du soin qui a des implications sur la relation thérapeutique. Alors peut-être pour conclure et pas dépasser mon temps, rebondir d'abord sur cette question de la juridicisation. Pour beaucoup, ce tournant juridique est vécu dans le monde médical plutôt comme une forme de néo-bureaucratisation. On s'inquiète justement de la place prise par les exigences de traçabilité, par les exigences administratives, par toutes ces contraintes-là. Je crois que ces dimensions-là sont effectivement présentes et dans une certaine mesure, le choix de mettre la place du juge sur un niveau systématique et non pas comme un recours possible participe peut-être d'une forme de pensée du droit comme mise en conformité et comme forme de néo-bureaucratisation. Pour autant, il n'y a sans doute pas que cette dimension bureaucratisante dans le tournant juridique. Il y a aussi réellement une place plus grande faite aux capacités des personnes, aux personnes dans leurs capacités. Il y a une manière de faire confiance aux capacités des personnes, quand bien même celles-ci seraient vulnérabilisées, quand bien même celles-ci feraient l'objet de variations dans le temps qui peuvent être plus importantes que la moyenne. Donc il me semble important de souligner cette dimension qu'on pourrait presque qualifier de progressiste du tournant juridique, avec bien sûr la réserve, avec les risques des formes de néo-bureaucratisation. Dire également que ce tournant juridique, il implique l'arrivée de beaucoup de nouveaux acteurs. J'ai évoqué le juge, mais derrière, ça veut dire également des avocats, mais ça veut dire aussi des mandataires judiciaires, mais ça veut dire également des accompagnateurs juridiques, ça veut dire également des militants du droit, de nouveaux acteurs dans la relation de soins. Et c'est assez intéressant parce que ça brouille un petit peu les frontières et ça me fait rebondir sur le troisième point, la place du droit dans la clinique. Quel est l'objectif de ces différents acteurs ? Est-ce qu'on est sur des objectifs antagonistes, hein, d'un côté la clinique, de l'autre le juridique, et il faut maintenir une étanchéité grande entre ces deux activités pour précisément faire place à la personne au milieu, hein, ou au contraire, est-ce qu'il faut inviter à des formes d'articulation, de complémentarité entre les acteurs spécialistes du droit et les acteurs spécialistes de la clinique, mais ce qui implique sans doute une réflexion plus grande sur la place du droit dans la clinique, hein, dans quelle mesure le souci pour les droits a une dimension thérapeutique, participe également d'une dynamique thérapeutique. Et puis peut-être pour conclure complètement, vous inviter, hein, j'ai introduit en évoquant le fait qu'on on essayait avec le collectif Contraste d'avoir des temps de débat, des temps d'échange sur les questions des évolutions des régulations des soins en santé mentale. On a essayé de lancer le débat autour de la Convention de l'ONU et de son article 12. On souhaiterait continuer sous ces formes un peu de conférences citoyennes et scientifiques. Donc dire un peu, là encore, faire un petit appel proposition à ceux que la question intéresserait, dire pour que la réflexion sur l'article 14, sur la question des contraintes, hein, et du cadre légal de la contrainte tel qu'on peut l'interpréter de la Convention de l'ONU, ces questions-là, on a envie de les discuter, et ça implique aussi d'avoir des professionnels qui s'en saisissent, qui font des formes de je ne sais pas, bien sûr, de petites enquêtes ou simplement de focus group. Donc on mène ce type de travaux avec des usagers, avec différents types de professionnels, mais j'adresse aussi la proposition à ceux qui seraient intéressés. Je vous remercie.
Bien, laissez la page pour l'instant ici, le temps de l'échange.